Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Bac FM 106.1 en compagnie des Chloé. On se retrouve aujourd'hui pour une émission consacrée aux écrans et aux dangers qu'ils peuvent représenter pour le développement psychique et moteur pour les enfants et les jeunes. Il nous a semblé important de consacrer une émission à ce sujet car comme nous le savons tous, les écrans sont de plus en plus présents dans nos vies et sont intégrés dans notre quotidien. De plus, j'ai choisi de réaliser mon grand oral sur ce sujet. Nous supposons que la consommation des écrans donne des effets néfastes sur les enfants et les jeunes. C'est pour cela que nous aurons le plaisir d'échanger avec M. Serge Tisseron, qui répondra à nos questions. Bonjour M. Tisseron.
Bonjour.
M. Tisseron est un psychiatre et psychanalyste. Il est également membre de l'Académie des technologies. Il a publié une quarantaine d'ouvrages tels que 3, 6, 9, 12, Apprivoiser les écrans et grandir. Y a-t-il un pilote dans l'image ? Ou encore, qui a peur des jeux vidéo? Il a aussi participé à des ouvrages collectifs.
Tout d'abord, pourquoi les jeunes sont-ils les plus exposés à l'addiction aux écrans?
Alors, cette expression addiction aux écrans, en effet, on est tous familiers avec elle. Hein, on la lit dans les journaux, on l'entend à la radio, à la télévision. Alors, il faut quand même préciser que pour la communauté scientifique, il n'existe pas d'addiction aux écrans. Hein, il existe ce que l'Organisation mondiale de la santé a appelé un gaming disorder, un trouble du jeu vidéo, un usage excessif du jeu vidéo. Et l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, prend la précaution de dire qu'il faut qu'une personne soit désocialisé, déscolarisé depuis plus de 12 mois avec pour seul centre d'intérêt le jeu vidéo pour qu'on puisse parler d'addiction. Donc vous voyez, même dans le domaine des jeux vidéo, quand on parle d'addiction aux jeux vidéo, ça concerne quand même une petite partie des utilisateurs et puis souvent, et même pratiquement toujours, il y a des troubles psychiatriques hein, qui s'ajoutent, ce qu'on appelle des comorbidités. Et cette addiction en plus aux jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle une addiction comportementale très différente de l'addiction aux produits toxiques. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes avec les écrans, mais il faut éviter cette expression d'addiction. Et couramment aujourd'hui, on parle plutôt d'usage problématique des écrans. Hein, toute la question étant évidemment de savoir qu'est-ce qui fait qu'à certains moments quelqu'un qui a un usage à peu près normal des écrans bascule dans un usage problématique, voire un usage pathologique. Et c'est vrai que les jeunes sont particulièrement exposés à ce risque parce que pour eux, les liens avec leur père, PIRS, avec leurs copains, avec leurs potes, est extrêmement important. Et qu'en période de confinement, comme on le vit en ce moment, eh bien, la plupart de ces liens passent aujourd'hui par leurs outils numériques, notamment par leur téléphone mobile. Donc c'est vrai qu'il y a un risque d'utiliser plus que de raison le téléphone mobile. Mais encore une fois, la question reste ouverte. Hein, elle est discutée d'ailleurs de savoir si les jeunes seraient accros à leur mobile ou bien s'ils ne seraient pas plutôt accros à leurs potes. Hein, voilà. Mais quand on donne aux jeunes la possibilité de se retrouver en présence physique, eh ben on constate que la très très grande majorité d'entre eux préfèrent se voir pour de vrai que de communiquer via leur téléphone mobile.
Mais justement, comment savoir si un jeune est dans un usage à risque des écrans?
Alors, quel que soit l'âge, hein, l'élément important, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais vous avez raison, il faut être plus précis encore, le risque, c'est quand une personne, à tout âge d'ailleurs, préfère communiquer à travers un écran, préfère être devant un écran que de retrouver des proches. Alors, je ne parle pas de la famille, parce que souvent les adolescents ont des difficultés avec leur famille, hein, pour beaucoup de raisons, mais lié au fait qu'ils ont bien compris qu'il faut qu'ils la quittent. Donc, on ne peut pas quitter des gens avec lesquels on s'entend bien. Donc, le jeune établit un nouveau réseau social avec ses potes, avec ses copains. Et là où il faut s'inquiéter, c'est lorsqu'ils préfèrent communiquer avec eux à travers les outils numériques plutôt que de les retrouver pour de vrai. Hein, si un jeune dit non, je préfère jouer à un jeu vidéo en réseau avec mes copains plutôt qu'aller les retrouver, faire une fête chez un de mes camarades. Ça, c'est préoccupant. Et puis, il y a une deuxième raison aussi. Hein, quand en période de confinement, il est difficile parfois de faire valoir la préférence pour une rencontre physique. Donc, beaucoup de gens sont en effet devant les écrans. Et là, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de demander aux jeunes si à travers les écrans, ils retrouvent des gens qu'ils connaissent, en principe des camarades d'école, ou bien alors s'ils préfèrent jouer seul ou avec des inconnus. Il faut savoir que quelqu'un qui préfère jouer seul ou avec des inconnus est quelqu'un qui est seul dans la cour de récréation, qui est seul dans son école. Si en revanche un jeune qui est interdit de sortir par le confinement joue à des jeux vidéo en réseau avec des copains, bon ben il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et puis surtout si il demande dès que les règles du confinement sont un peu levées, s'il demande à aller faire la fête chez l'un d'entre eux, c'est bon signe.
Très bien, merci. À présent, nous aimerions connaître les causes d'un usage excessif.
Alors, il y en a plusieurs. Alors, un problème qui est pointé aujourd'hui par les experts, c'est de dire que une très forte consommation de télévision chez le très jeune enfant est un facteur prédictif d'un risque d'utilisation excessif plus tard. Alors, vous voyez qu'un jeune de 14, 15, 16, 17, 18 ans est accro, comme on dit, à ces outils numériques, il ne faut pas forcément le considérer comme coupable, d'une addiction. Non, peut-être c'est un enfant qui a été mis trop devant la télévision quand il avait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. On sait en effet aujourd'hui que une consommation importante de télévision dans les premières années, et là l'enfant n'en est pas responsable, c'est la responsabilité de ses parents, de son environnement, on sait aujourd'hui que cette consommation est un risque prédictif d'une surconsommation de toutes les formes d'écran plus tard. Donc vous voyez, il y a un élément qui nous échappe à chacun selon le milieu dans lequel on a grandi. Alors, il y a un deuxième élément qui peut provoquer un usage excessif, c'est lorsque on est très préoccupé par un problème qui nous paraît insoluble. Alors, ça peut être une déception amoureuse, mais à l'adolescence, c'est souvent aussi l'annonce de la séparation, du divorce des parents qui crée un choc chez un jeune, et c'est bien normal. Et donc, toutes les fois où on se dit, toutefois on a envie de fuir une pensée qui est douloureuse, ça peut être aussi un harcèlement scolaire, ça peut être aussi un deuil d'un grand-parent qui s'est beaucoup occupé de l'enfant. À chaque fois qu'on cherche à fuir une situation préoccupante en se réfugiant dans une série télé, dans un jeu vidéo, dans les écrans, eh bien, à chaque fois, on risque un usage problématique, un usage excessif, vous voyez. Et c'est pour ça que aujourd'hui on dit que si un jeune est dans un usage excessif des écrans, ça sert à rien de lui enlever les écrans. Il faut comprendre pourquoi il y est, quoi. Et très souvent, encore une fois, c'est une manière d'essayer d'échapper à une pensée douloureuse. Donc il faut prendre en compte cette pensée douloureuse. Voilà, il faut aider à surmonter la perte d'un être cher, une situation de harcèlement, le divorce des parents. Et à ce moment-là, le jeune s'écarte naturellement de cet usage problématique des écrans. Vous voyez, c'est l'utilisation des écrans comme potion d'oubli, mais qui dit potion d'oubli, dit désir d'oublier quelque chose, et c'est ce quelque chose que beaucoup d'utilisateurs excessifs des écrans cherchent à oublier, qu'il faut chercher à comprendre avec eux pour les aider à le surmonter.
À votre avis, quel serait l'âge minimal requis à l'utilisation des écrans ?
Alors, j'ai beaucoup dit, puisque c'est moi qui ai lancé le slogan en 2006, pas d'écran avant 3 ans. Alors, pas d'écran avant 3 ans, à l'époque, s'il y avait un seul écran, c'était la télévision. Donc, on disait pas de télé avant 3 ans, et puis comme il y avait un seul écran, la télé, on disait pas d'écran avant 3 ans, c'était synonyme, comme on dit la même chose, pas d'écran, pas de télé, un seul écran, la télé, pas d'écran, pas de télé avant 3 ans. Alors aujourd'hui, il y a d'autres types d'écrans, il y a les tablettes, il y a les smartphones, et on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que un usage accompagné sur des périodes courtes peut être salutaire pour un jeune enfant. Une période courte, ça veut dire 10 minutes, un quart d'heure, voilà, à 2 ans, voilà. Mais ça reste des situations exceptionnelles dans la mesure où c'est un usage accompagné qu'on appelle même en co-immersion, c'est-à-dire l'adulte se plonge dans l'activité d'écran avec l'enfant. Voilà. Donc, disons que il faut éviter évitons un enfant seul devant un écran avant 3 ans, et même un enfant qui est dans une pièce où la télévision fonctionne perturbe ses capacités d'attention et de concentration, même s'il ne la regarde pas. Donc, si vous voulez, à la louche, on peut continuer à dire évitons les écrans avant 3 ans. Voilà, même certaines études ont montré que les usages accompagnés, co-immersifs, etc., pouvaient être bienfaisants, c'est à la marge. Donc, l'important, c'est d'introduire les écrans de la bonne façon, dans les bonnes proportions, voilà, et c'est pour ça que j'ai proposé les balises 3, 6, 9, 12, hein, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, pour expliquer aux parents, aux adultes, aux pédagogues, comment inviter les enfants à découvrir les écrans de la bonne façon, dans les bonnes proportions, de manière à apprendre à la fois à s'en servir et à s'en passer.
Très bien, merci. Mais quelles peuvent être les conséquences d'une exposition précoce ?
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, en réponse à une autre de vos questions, c'est d'abord le risque d'une utilisation abusive plus tard. Alors après, on ne se connaît pas une exposition précoce, tout dépend. Hein, parce que si un enfant de 2 ans est 7 heures par jour devant la télé, c'est pas la même chose que s'il y est 3 heures par jour. Or, il est bien évident que 7 heures par jour devant la télé à 2 ans ou 3 heures par jour devant la télé à 2 ans, dans les deux cas, c'est trop. Voilà. Mais les études ont montré que à moins de 7 heures par jour dans les écrans, on n'observe pas vraiment de troubles notables qu'on peut chiffrer. Voilà. Et d'autant plus que tout dépend aussi des programmes regardés. Par exemple, il a été montré que les fameux Teletubbies, hein, voilà, ce programme anglais avec des petits bonshommes fleurs qui s'expriment par onomatopée, il a été montré que les Teletubbies appauvrissent le langage de l'enfant. Mais en revanche, il a été montré que Dora l'exploratrice enrichit le langage de l'enfant. Donc tout dépend aussi du programme regardé. Et puis tout dépend de l'accompagnement par l'adulte. Donc vous voyez, cette idée d'une exposition précoce, en fait, il faut tout de suite la nuancer en prenant en compte les trois principes qui sont à la base des balises 3, 6, 9, 12. Hein. Alternance, alors tout dépend de ce qu'on va faire avec l'enfant en dehors du temps où il est devant l'écran. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des enfants, à 2 ans, ils sont 2 heures par jour dans les écrans, 3 heures même, on va aller mettre la barre plus haut, 3 heures. Mais quand ils ne sont pas devant un écran, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Puis il y a des enfants qui sont 3 heures devant un écran, puis personne ne s'occupe d'eux quand l'écran est éteint. Puis il y a des enfants qui sont peut-être 1 heure par jour devant un écran, mais jamais personne ne s'occupe d'eux. Et donc, vous voyez, c'est très important, c'est d'envisager l'alternance entre activité d'écran, activité sans écran, et puis l'accompagnement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait, que chaque enfant bénéficie d'adultes disponibles pour lui. Or, vous savez que les gens riches payent des adultes disponibles, des babysitters, des coachs, des enseignants, des enseignants pour diverses activités, activités théâtrales, etc., activités sportives. Et donc, on s'aperçoit que cet accompagnement, en fait, est essentiel, il est très inégalement réparti, et que les couches sociales les plus défavorisées sont évidemment celles qui bénéficient le moins d'accompagnement par indisponibilité, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas payer des relais, ne peuvent pas payer des alternatives. Et donc, du coup, vous voyez, le fait qu'un enfant soit peut-être pas plus devant un écran dans les milieux défavorisés, mais le fait qu'il ne fasse rien d'autre quand il n'est plus devant un écran, c'est ça le problème. Le problème des écrans, c'est les alternatives aux écrans. Ce n'est pas interdire les écrans, c'est créer des alternatives. Dès que des enfants ont le choix entre retrouver des copains et faire avec eux du théâtre, du dessin, de la gymnastique, du foot, etc., ils préfèrent toujours ça, voilà, sauf cas pathologique. Mais le problème, c'est que souvent, ces alternatives sont coûteuses et que seules les couches sociales favorisées peuvent les réaliser. Et donc, du coup, il y a une grave inégalité du point de vue de la surexposition aux écrans. Les enfants des milieux les plus défavorisés sont les plus surexposés. Voilà, un gros handicap pour l'avenir, et parce qu'il n'y a pas d'alternative gratuite et encadrée.
Nous voudrions à présent savoir si l'usage des écrans a des effets sur le développement intellectuel de l'enfant.
Tout dépend des contenus, je l'évoquais tout à l'heure, et puis encore une fois, tout dépend du nombre d'heures d'exposition, puis tout dépend des trois principes que j'ai commencé à évoquer, alternance, accompagnement et apprentissage d'autorégulation. Voilà, un enfant qui est devant un écran mais il y a des alternances, ça n'aura pas la même conséquence qu'un enfant pour lequel il n'y a pas d'alternance. L'accompagnement, il joue un rôle essentiel. On sait aujourd'hui que parler avec un enfant de ce qu'il voit et fait avec les écrans et devant les écrans est tout à fait essentiel à son développement intellectuel. Et puis le troisième principe, l'apprentissage de la capacité d'autorégulation, c'est le fait que les parents fixent une tranche horaire d'écran, c'est-à-dire que ce n'est pas l'écran 1 heure ou 2 heures quand l'enfant le veut, c'est l'écran avant 3 ans ou même avant 6 ans, à une certaine heure fixe. Et donc, c'est ce qui permet à l'enfant d'apprendre à attendre. On sait qu'apprendre à attendre, c'est la première marche sur le chemin de l'apprentissage des compétences d'autorégulation. Donc, vous voyez, plutôt que de se demander, si vous voulez, aujourd'hui, les règles de bon usage des écrans sont connues. Le problème, c'est que beaucoup de parents ne les appliquent pas pour eux-mêmes, et donc du coup, les enfants grandissent dans des milieux où il leur est difficile de les apprendre. Si des parents allument la télévision en se levant le matin parce qu'ils restent à la maison toute la journée, qu'ils s'ennuient, qu'ils aiment mieux cuisiner, peut-être, ou je sais pas, lire un journal, ou ou regarder un écran, ou faire quelque chose avec l'écran allumé, ou regarder l'écran, et qu'un enfant est dans la maison, dans une pièce, dans la même pièce, mais évidemment, l'enfant est un dommage collatéral. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, plutôt que de se demander des effets sur le développement intellectuel, il vaut mieux se demander comment faire en sorte pour que, dans les milieux défavorisés qui sont les plus touchés par la surexposition aux écrans, comment faire en sorte pour que cette surexposition diminue. Regardez la décision de Joe Biden aux États-Unis de permettre à des enfants de milieux très défavorisés d'aller en crèche, va complètement modifier le rapport aux écrans de ces enfants. Probablement, la plupart d'entre eux sont toute la journée devant les écrans. Certaines déclarations parentales, d'ailleurs, font état de 15 heures par jour devant les écrans dans certaines familles pauvres américaines. Pourquoi ? Parce que les parents allument l'écran le matin. Le parent, souvent, une famille monoparentale, allume l'écran le matin, l'éteigne le soir en se couchant, et l'enfant est toute la journée devant. La création de places de crèche va complètement changer ça. Donc, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir plus de choses. La question, c'est de mettre en application ce qu'on sait.
Mais alors, le développement cognitif est-il mis en danger ?
Alors, à moins de 7 heures par jour, comme je vous évoquais tout à l'heure, il n'y a rien d'absolument probant. Il y a eu des études qui ont été faites dans les années 2000-2010, mais qui ont beaucoup alerté les médias. On s'aperçoit aujourd'hui, en fait, que ce sont des études de corrélation, ce ne sont pas des études causales. Alors, il faut comprendre ce qu'est une corrélation et une causalité. Vous avez deux événements, A et B, qui semblent liés. C'est-à-dire quand on trouve l'événement A, on trouve l'événement B. Quand on trouve l'événement B, on trouve l'événement A. Voilà, par exemple, quand il pleut, vous avez la plupart des gens un parapluie. Voilà. Alors, à partir de là, il faut comprendre la causalité. Alors, est-ce que c'est quand il pleut, les gens prennent leur parapluie, ou bien est-ce que c'est quand beaucoup de gens prennent leur parapluie, ça fait pleuvoir? Bon, aujourd'hui, la question paraît bête pour la pluie et le parapluie, mais dans certaines sociétés, pendant très longtemps, on se le demandait. Oui. Donc, avec des rituels pour faire pleuvoir, voilà. Donc, ça, c'est une causalité. Quand il y a une corrélation, il peut y avoir une causalité dans un sens ou dans l'autre. L'événement A provoque l'événement B, ou bien l'événement B provoque l'événement A. Mais il y a un troisième cas de figure, c'est que A et B, en fait, sont liés à une troisième cause, qui est une cause C. Troisième cause, voilà. Par exemple, il a été montré que les enfants qui ont une petite lampe près d'eux au Japon ont une moins bonne vue. Et longtemps, on a pensé que c'est parce qu'ils avaient une petite lampe à côté de leur lit que ça entravait le développement de leurs compétences oculaires. On s'est aperçu finalement que beaucoup de parents japonais étaient un peu myopes et que pour aller dans la chambre du bébé, il fallait qu'il y ait une petite lampe pour qu'il se guide sur cette lumière. Et comme la myopie est un facteur congénital, et bien évidemment, les enfants de parents un peu myopes avaient plus de chances d'être un peu myopes. Donc en fait, c'était la myopie qui expliquait la petite lampe. Voilà, il n'y avait pas de corrélation entre la myopie de l'enfant et la petite lampe, c'est en fait une myopie transmise génétiquement par le parent qui faisait que le parent a besoin de la petite lampe, donc il y a la lampe, la myopie de l'enfant, la myopie du parent, mais tout ça était à penser, vous voyez, dans une causalité circulaire. Donc, beaucoup d'études pour en revenir aux écrans, en effet, ont été interprétées comme des études de causalité, alors qu'en fait, ce ne sont pas des études de causalité. Je vais vous expliquer plus précisément. Prenez l'exemple, un enfant. Il y a des études, notamment celle d'Ina Pagani, qui ont montré qu'un enfant qui était beaucoup devant la télévision, quand il était petit, présentait un certain nombre de risques, des risques beaucoup plus grands d'avoir des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des moins bons résultats scolaires, des troubles de l'alimentation, des troubles de la sociabilité. Alors, à l'époque, beaucoup de journalistes et beaucoup de scientifiques ont dit « ben ça y est, c'est démontré ». Plus d'écran et, voilà, troubles de socialisation, d'alimentation, etc. Aujourd'hui, on voit les choses autrement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que dans ces familles où les enfants sont plus devant les écrans, en fait, le problème, c'est pas seulement les écrans. C'est-à-dire que ces parents, souvent, développent une attitude d'indifférence par rapport à leur enfant. Il est toute la journée devant l'écran, peu importe. Il mange n'importe quoi, peu importe. Il choisit mal ses copains, peu importe. Il a des mauvaises notes, peu importe. Et alors, du coup, l'enfant a des troubles alimentaires, des troubles relationnels, des mauvaises notes à l'école. C'est pas dû à la surconsommation d'écran. La surconsommation d'écran et l'ensemble des troubles sont dus à une même cause, l'indifférence parentale au devenir de l'enfant. Donc aujourd'hui, on raisonne beaucoup plus en termes d'intérêt parental et on considère que si un enfant passe beaucoup de temps dans les écrans, c'est un signe d'alerte d'un risque de désintérêt, voire même de maltraitance parentale.
Merci Monsieur Tisseron d'avoir répondu à mes questions. Nous allons désormais marquer une pause musicale. On se retrouve juste après en compagnie de Serge Tisseron.
Papa ?
Ouais ?
Tu m'écoutes là ? Ouais, je t'écoute.
Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui?
Non, dis-moi.
Ben, j'étais chez Mathéo. On a pris la tronçonneuse de son papy au garage.
Ouais.
On a découpé sa tortue.
Ouais.
Et sa petite sœur aussi. Puis après, on a brûlé sa maison.
Ok.
Puis je suis rentrée.
Oh, c'est bien ça, tu dois être content, dis donc.
Voilà.
Ma maman m'a demandé hier si tout s'était bien passé aujourd'hui à l'école. Maman, tu ne connais pas la dernière. Depuis quelques temps déjà, le dimanche, il n'y a pas école, hein.
Même quand ils sont là, ils sont pas là. Il n'y a que leurs pouces qui s'agitent. Et encore, comme Mowgli face au serpent, car on a dû jeter à mon papa un apple sort.
Micron, rendez-nous nos parents. Lâche-leur la pomme, merci, ça leur fera des vacances.
Micron, débranchez nos parents. Coupez-leur donc le wifi, on fera connaissance. Ça tag, ça like, c'est sans fin. Là je me dis, mes frangines Adèle et Rebecca, sur ce coup-là s'en sortent plutôt bien. Elles auraient pu s'appeler Pixel et Retina,
des wifi en quelque sorte.
Quand bien même entre deux mises à jour, on irait se ressourcer tous ensemble en forêt, bercé par le chant des oiseaux alentour.
Ça fait, et puis, et encore, et enfin.
Écran, rendez-nous nos parents. Lâchez-leur la pomme, merci, ça leur fera des vacances.
Écran, débranchez nos parents. Coupez-leur donc le wifi, on fera connaissance.
Plus besoin d'aller chez les sorcières pour se métamorphoser en zombie.
Munissez-vous d'une simple soupière et faites réchauffer au bain-marie.
Quelques grammes d'Instagram,
un zeste Pinterest,
quelques gouttes de Facebook,
un grand tube de YouTube, un demi-cœur de Twitter,
une petite boîte de WhatsApp,
une pointe de Waze de synthèse
et trois gousses de Bluetooth. Merci,
ça nous fera des vacances.
Écran, débranchez nos parents.
Coupez-leur donc le wifi,
on fera connaissance.
Écran, rendez-nous nos parents. Lâchez-leur la pomme, merci,
ça nous fera des vacances.
Écran, débranchez nos parents.
Coupez-leur donc le wifi,
on fera connaissance.
Mac FM 106.1.
Nous sommes toujours en compagnie de Serge Tisseron pour une émission consacrée au danger des écrans pour les enfants.
Monsieur Tisseron, pouvez-vous me dire les conséquences sur le sommeil?
Alors les conséquences sur le sommeil sont massives. Le seul point sur lequel tous les experts s'accordent, c'est les conséquences graves des écrans sur le sommeil. Alors pourquoi? Pour deux séries de raisons. La première série de raisons est très simple à comprendre, c'est que quand on est devant un écran, on oublie le temps qui passe. Voilà, moi, vous et tout le monde. Voilà, on commence à regarder une série. Puis, faut comprendre aussi que les outils numériques sont scélérats. C'est-à-dire, ils sont faits pour qu'on décroche pas. Par exemple, sur Netflix ou YouTube, vous savez, il y a l'enchaînement automatique des vidéos. Vous finissez un épisode, il y a le suivant qui commence. Et du coup, c'est difficile d'arrêter. Voilà. Donc, premier problème, les fournisseurs d'accès aux écrans font tout pour qu'on y reste le plus longtemps possible, qu'on décroche pas, parce qu'on apporte comme ça toujours plus de données personnelles et toujours plus d'argent par le biais de sites de publicité. Donc il y a une pression énorme pour des fabricants d'accès aux écrans pour qu'on ne les quitte jamais. Et effectivement, c'est très dur de décrocher. Alors le deuxième problème, c'est que les écrans la journée, Les écrans sont lumineux parce qu'ils sont éclairés par des LED, des petites lumières bleues, et ces LED reproduisent la lumière du jour. Donc la journée, on est dans le soleil, on est dans la lumière, on est dans les écrans, pas de problème. Le problème, c'est quand la nuit tombe, il n'y a plus de lumière dehors, il n'y a plus de soleil, et nous, on est toujours devant nos écrans. Et cette lumière bleue trompe le cerveau, elle fait croire au cerveau que c'est toujours la journée, que, voilà, qu'il est toujours midi ou une heure de l'après-midi. Et donc, du coup, il se passe le phénomène suivant que tout le monde a vécu. On est devant un écran passionné, on se dit ça y est, c'est minuit, une heure du matin, il faut vraiment que j'aille me coucher, on fait un effort, on arrête l'écran, on va se coucher, on dort pas, on est complètement réveillé. Alors, certains se disent, bah, c'est pas la peine, puisque je suis réveillé, je vais retourner devant mon écran, jusqu'à ce que je sois plus réveillé. Eh ben non, grave erreur, parce que les lumières bleues trompent le cerveau et font croire que c'est la journée. Et comme elles font croire que c'est la journée, ben notre cerveau reste réveillé, mais le problème, c'est que le lendemain, il va subir le contre-coup et on aura eu moins de sommeil, moins de quantité de sommeil, mais aussi un sommeil de moins bonne qualité, puisque les lumières bleues perturbent ce qu'on appelle la mélatonine, hein, qui est l'hormone clé de l'endormissement. Et donc, du coup, deux facteurs qui se cumulent, vous voyez, une réduction du temps de sommeil par la difficulté de décrocher, une moins bonne qualité du sommeil, qui fait que les troubles du sommeil sont un problème énorme des écrans. Et la prévention, elle est où ? Ben, elle n'est pas d'interdire les téléphones mobiles aux enfants, aux jeunes, aux ados. La prévention, elle est que tout le monde, le soir, laisse son téléphone mobile ailleurs que dans sa chambre. Ne jamais emmener son téléphone mobile dans sa chambre la nuit. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le consulter. Si on décide de se coucher à 22h ou à 23h, on le regarde jusqu'à 22h ou 23h si on a envie d'être tranquille dans sa chambre pour le regarder. Mais en revanche, pas la nuit, parce que la nuit, la tentation est trop grande. Un copain qui appelle, tout d'un coup, on se réveille, on a une petite insomnie, ça arrive à tout le monde, et hop, on regarde sur son téléphone mobile, c'est de nouvelles notifications. Donc, pas de téléphone mobile la nuit dans la chambre, jamais. La première chose que toutes les familles devraient faire quand un enfant vient au monde, c'est d'acheter un réveil à chacun, et que chacun se réveille avec son réveil. Il faut absolument que dans les familles, il y ait une règle qui décide, qui fixe dans toutes les familles, que personne n'emporte son téléphone mobile dans sa chambre la nuit. Encore une fois, les conséquences sur le sommeil, c'est le seul point sur lequel tous les experts sont d'accord. Ces conséquences sont dramatiques.
D'accord, merci. Et sur les liens sociaux, quelles seraient les conséquences ?
Vous savez, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on communiquera demain. Voilà, on vit le confinement. Vous savez que Zuckerberg parle de la création des métaverses. Voilà, pouvoir communiquer en tout lieu, à tout moment, mais en distanciel, grâce à par avatar interposé. Voilà, ce qu'on appelle une présence de l'absence, une pseudo-présence. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que beaucoup d'adolescents utilisent leurs outils numériques pour communiquer à distance, très, très souvent dans la journée. Et là, il y a deux théories que j'évoquais un peu tout à l'heure, mais je les précise. Il y a une théorie qui dit, ben voilà, les jeunes ont tellement l'habitude de, première théorie, hein, les jeunes ont tellement l'habitude d'utiliser leur téléphone mobile pour entrer en contact qu'ils se rencontrent moins en présence physique. Et puis, ils sont aussi beaucoup plus déprimés parce que la communication en distanciel, c'est déprimant. C'est la première théorie. Effectivement, il y a plus de tentatives de suicide, de scarification, voilà, je suis plus de dépression chez les jeunes. Seconde théorie, elle consiste à dire, ben, il y a beaucoup de raisons d'être déprimé aujourd'hui chez les jeunes. Le téléphone mobile n'est pas, si tant est qu'il y a une raison, c'est pas la seule. Et cette théorie dit, mais le problème, c'est que si les jeunes communiquent autant via les téléphones mobiles, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus de lieux dans lesquels se rencontrer. Et effectivement, dans beaucoup de villes, il y a du béton. Et il y a des petits jardinets avec un toboggan, voilà, et un bac à sable pour les tout-petits. Mais pour les ados, il n'y a plus d'espace pour se retrouver. Et donc, du coup, comme il n'y a plus d'espace physique dans lequel se retrouver, eh ben, ils se retrouvent via les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, il y a ces deux théories. Alors, à partir de là, il y a un autre problème qui se greffe, c'est que les réseaux sociaux, ils ne sont pas conçus pour les utilisateurs. Ça, ils font semblant. Voilà, faut bien donner un petit peu à l'utilisateur l'impression qu'on pense à lui. Mais les réseaux sociaux, ils sont tout entiers conçus pour les fabricants. Pourquoi ? Parce que les fabricants conçoivent les réseaux sociaux, ben, ça a été beaucoup dit avec Facebook, hein, mais les autres aussi, Twitter, les réseaux sociaux sont conçus pour qu'on y reste toujours plus longtemps, qu'on y passe donc toujours plus de temps, qu'on y donne toujours plus de données personnelles et éventuellement qu'on cède toujours plus à des propositions d'achat. Et donc, du coup, le grand problème aujourd'hui, ça serait de transformer les réseaux sociaux pour qu'ils puissent devenir des plateformes de vrais échanges, parce que les réseaux sociaux ne permettent pas aujourd'hui de vrais échanges. On ne peut pas construire une pensée à plusieurs, on ne peut pas faire du collaboratif, on ne peut pas apprendre à travailler ensemble sur les réseaux sociaux. Et puis en plus, les réseaux sociaux nous enferment chacun dans des bulles, voilà, et ils nous renvoient toujours ce qu'on a présenté en premier comme centre d'intérêt. Donc les réseaux sociaux sont cherchés par les ados à la mesure probable du fait qu'il n'y ait plus d'espace de rencontre physique où le confinement empêche de rencontrer un besoin physique. Mais ce qui pourrait être un bien, c'est-à-dire de compenser l'absence de relations physiques, devient un vrai problème parce que les réseaux sociaux sont fabriqués par des scélérats, Facebook, Twitter et compagnie, qui ont tout conçu pour que nous soyons le plus possible sur ces réseaux et que nous enrichissions de plus en plus leurs propriétaires, donc les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, en apportant toujours plus de données personnelles, comme vous savez, sont monnayées très chères, et qu'on soit toujours plus tenté d'y acheter des objets proposés à notre désir, voilà. Ce qui est vrai aussi dans les jeux freemium, hein, les jeux free-to-play, aujourd'hui, sont conçus exactement de la même façon. Donc, il faudrait que le législateur légifère. Là, c'est un travail du législateur. Mais en attendant, méfions-nous des réseaux sociaux. Soyons conscients du fait que les algorithmes nous mènent par le bout du nez. Les algorithmes, aujourd'hui, non seulement ont le pouvoir de nous enfermer dans des bulles, mais même, ils ont aujourd'hui le pouvoir d'influencer nos choix, nos libertés individuelles et collectives sont menacées par les algorithmes des réseaux sociaux. Il faudrait une éducation précoce aux réseaux sociaux dans le cadre scolaire, à défaut de l'environnement familial, pour expliquer aux enfants à quel point nous croyons être libres sur les réseaux sociaux, mais nous ne le sommes pas.
Très bien. En prenant en compte toutes ces informations, selon vous, faudrait-il bannir les écrans ?
Non, les écrans sont une opportunité formidable, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'expérimentations aujourd'hui. Et en plus, des politiques qui voudraient bannir les écrans, mais les écrans, on les achète avec nos sous. Voilà, donc, et puis en plus, vous avez vu pendant le confinement tous les avantages qu'ils ont apportés. Non, ce qu'il faut, c'est à trois dimensions, hein, d'une bonne prévention. Il faut que les pouvoirs publics légifèrent pour obliger les réseaux sociaux à être plus clairs, à moins manipuler les utilisateurs, à mieux informer les utilisateurs de la manière dont, à certains moments, leurs choix sont biaisés. Voilà. Et puis, il y a une deuxième dimension de la prévention, c'est évidemment la famille, c'est le domaine dont je m'occupe, les balises 3, 6, 9, 12. Et voilà, ne jamais prendre les repas familiaux avec un écran, pas de télé pendant les repas, pas de smartphone, pas de tablette, voilà, apprenons à au moins pendant 20 minutes par jour, pendant le repas du soir, c'est un genre le seul partagé en famille, à interagir, à parler des écrans qu'on a vus et pas seulement à consommer des écrans. On peut vraiment d'ailleurs s'approprier le contenu de ce qu'on voit sur les écrans, que si on échange, que si on en parle, que si on le reformule. Et puis la troisième dimension, c'est la politique de la ville. Il ne faut pas les intéresser des élections locales. C'est les élections locales qui permettent de faire pression sur les candidats pour qu'il y ait des espaces disponibles pour toutes les tranches d'âge, pas seulement des bacs à sable et des toboggans, mais aussi des espaces pour les adolescents. Aujourd'hui, il en manque cruellement, hein, puisque les espaces traditionnels de rencontre, les friches n'existent plus, et puis les supermarchés, vous savez comme moi qu'il y a maintenant des gens qui sont payés pour faire fuir les ados, et puis il y a même des boutiques pour éviter que les ados s'installent devant, qui installent des systèmes d'ultrasons qui perturbent les oreilles des ados pour les faire fuir. Les ados sont bien vus nulle part aujourd'hui dans la ville. Bon, alors faut pas s'étonner qu'ils se réfugient sur les écrans. Non, le problème, il n'est pas de bannir les écrans, phrase idiote, voilà, mais il est d'apprendre à les utiliser pour qu'ils puissent nous apporter et construire des contre-feux, des pare-feux à leur danger. Encore une fois, responsabilité du législateur, responsabilité des familles mieux éclairées par les pouvoirs publics, elles sont très peu éclairées aujourd'hui, et puis responsabilité des mairies, enfin des villes, pour créer des alternatives gratuites et encadrées aux écrans partout, et que ce ne soit plus seulement les riches qui puissent proposer à leurs enfants des alternatives aux écrans, mais que tous les enfants aient la possibilité de trouver ces alternatives gratuites et encadrées dans leur quartier.
Vous avez parlé d'accompagnement dans les questions précédentes. Pensez-vous que les alternatives sont connues ?
Ceux qui ont de l'argent les connaissent. Il y a des enfants aujourd'hui, à la sortie de l'école le lundi, ils vont en activité théâtrale, le mardi en activité musique, le mercredi en activité sport de combat, le jeudi en activité ordinateur et le vendredi club de dessin. Donc les alternatives, elles sont connues. Il y a dans les grandes villes, il y en a partout. Le problème, c'est qu'elles sont très très chères. Donc, sont-elles connues ? Oui. Les pauvres savent bien que au coin de la rue, il y a un atelier sport de combat ou un atelier initiation à l'activité d'ordinateur. On le sait bien. Il y a des publicités, mais c'est pas accessible. Voilà. Donc, le problème, c'est que ces alternatives deviennent accessibles. Alors ça, c'est la responsabilité de la politique de la ville.
D'accord. Monsieur Tisseron, quels seraient vos conseils pour aider les jeunes parents à limiter la consommation des écrans de leurs enfants ?
Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de donner le bon exemple. Voilà, donner le bon exemple, ça veut dire ne pas utiliser son téléphone mobile à tout moment. Alors, votre question me permet d'ailleurs d'évoquer un problème majeur que j'ai pas évoqué aujourd'hui, un problème qui est beaucoup mis en avant dans la littérature scientifique américaine. C'est ce qu'on appelle la technoférence. Technoférence, c'est un mot un peu barbare, ça veut dire tout simplement l'interférence de la technologie, technoférence, interférence technologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de parents aujourd'hui utilisent leur téléphone mobile en interagissant avec leur bébé. Donc les parents vont voir le bébé ou sont avec lui, alors je parle même pas de la tétée ou du change, mais simplement ils sont avec lui, puis ils sont avec leur téléphone mobile aussi. Et donc on s'est aperçu que lorsqu'un adulte interagit avec un téléphone mobile et un bébé, il passe du temps avec son téléphone mobile et du temps avec son bébé, mais il a moins de temps pour son bébé puisqu'il a son attention partagée. Il fait des phrases moins courtes cet adulte, il fait des phrases moins longues cet adulte, non plus courtes. Il a moins de mimique parce qu'une partie de son attention émotionnel est accaparé pour son smartphone, et les chercheurs américains ont montré que ces situations dans lesquelles un bébé ou un jeune enfant interagit avec un adulte occupé par son smartphone, un parent occupé par son smartphone, des recherches nord-américaines ont montré que les enfants développent des troubles de l'attachement, c'est-à-dire un syndrome dépressif, des troubles comportementaux, une mésestime de soi, difficulté à se faire confiance, difficulté à faire confiance dans le monde. Et donc, du coup, première chose à faire, premier conseil, quand, mesdames, vous êtes enceintes, ou messieurs, quand votre compagne est enceinte, décidez que vos habitudes avec vos téléphones mobiles vont changer. Achetez-vous tout de suite un réveil. Puis quand l'enfant grandit, ne perdez aucune occasion de dire, tu vois, papa, maman ont un téléphone, mais ils l'utilisent pas pendant le repas, ils l'emmènent pas dans leur chambre la nuit. Donc toi, quand tu seras grand, ça sera pareil. Voilà. Bannissons complètement les outils numériques parce que nous sommes en situation de communication. Il y a sans doute des gens qui nous écoutent, qui peut-être parfois prennent des repas avec leurs copains. Pendant les repas avec les copains, chacun met son téléphone mobile sur la table, avec l'écran tourné vers la table, en vibreur, et le premier qui décroche quand le vibreur sonne, ou le premier qui a la tentation d'aller voir quelque chose, paye l'addition. Il faut absolument nous créer des règles collectives. Ça ne concerne pas que les parents, ça concerne tout le monde. Les règles collectives, c'est ce qui permet à chacun de trouver la force de s'imposer des règles d'hygiène personnelle parce qu'il se sent soutenu par son groupe.
D'accord. Notre émission est à présent terminée. Merci beaucoup, Serge Tisseron, d'avoir répondu à nos questions. À bientôt, chers auditeurs, et très belle journée à l'écoute de BAC FM. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.